clé secrète de l'univers. Dominique Desmichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les âmes. Vous nous écoutez, et vous nous écoutez déjà peut-être depuis plusieurs semaines, dans ce grand livre cosmogonique, cosmogonique c'est-à-dire qui engendre le cosmos, c'est ça l'étymologie, et qui tente de raconter l'histoire de notre univers, de sa naissance avec le Big Bang, jusqu'à nos jours. Notre générique, vous le connaissez probablement bien maintenant, c'est la musique composée par Richard Strauss et que ce grand cinéaste Stanley Kubrick a mis en introduction de son film 2001, l'Odyssée de l'espace, film sorti en 1968 à partir d'un scénario d'un livre de Arthur C. Clarke. Pour ce grand voyage au cœur de la naissance du monde, des étoiles, de notre planète Terre, de notre système solaire, de la vie, de nos cellules, puis de toute la ligne des animaux, pour aboutir à l'homme, nous sommes accompagnés par Michel Galliana Mingo, un grand savant et un vulgarisateur tout à fait étonnant. Il a publié un très bel ouvrage, Les clés secrètes de l'univers, chez EDP Science, que je vous recommande très chaleureusement. Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors la dernière fois, nous étions arrivés à un moment un petit peu particulier, puisque nous avions parcouru le temps des reptiles qui commencent à arriver sur la planète, puis des premiers primates avec des caractéristiques très très spécifiques qui nous rappellent des choses qui nous sont bien communes. Et vous nous aviez précisé justement les caractéristiques communes à tous ces primates. Alors aujourd'hui, où est-ce que vous nous emmenez ?
Eh bien, nous allons voir comment, parmi ces primates, a émergé l'homme. Alors, comme vous le disiez, Dominique, les caractéristiques humaines, pratiquement toutes, même la conscience, existent chez le primate d'une façon très embryonnaire. Nous avions parlé du test du miroir, que seuls trois singes passent. Mais ce sont les tout débuts de la conscience à d'une façon extrêmement primaire, mais déjà une conscience de soi. Et nous avions dit donc de façon très embryonnaire, il y avait déjà ces qualités, mais il y a 6 millions d'années va se produire un événement important qui est la bipédie. Il va y avoir ce qu'on appelle la séparation homme-singe, qui est en fait la séparation entre le chimpanzé et les bipèdes. Alors, je vous donne tout de suite le nom scientifique. Les bipèdes, on les appelle les hominines. Ce sont des singes bipèdes. Et dans les hominines, au début, il s'agissait essentiellement d'australopithèques. Et d'une façon un peu floue, parce que nous n'avons pas assez de fossiles pour bien connaître les choses, mais d'une façon assez floue, Homo a émergé parmi ces australopithèques. Alors, disons un mot de ce qui s'est passé il y a 6 millions d'années. Je disais que la bipédie était un phénomène important. Alors oui, ce n'est pas en soi le fait de marcher. D'ailleurs, il y a des animaux qui sont capables de se tenir debout, comme les ours ou les marmottes, les chimpanzés d'ailleurs aussi. Non, ce qui est important, c'est que cela va être accompagné de beaucoup d'autres choses. D'abord, le changement de nourriture. Les chimpanzés, comme les autres singes, vivent dans les arbres et mangent des végétaux. Avec la bipédie, on peut trotter au sol. Et ça favorise la recherche d'aliments carnés. Les aliments carnés, c'est extrêmement important pour le cerveau, car vous savez que votre cerveau consomme 20% de votre énergie. L'énergie que vous avez grâce aux aliments, qui correspond à peu près à 100 watts. Je vous donne le chiffre, c'est intéressant, c'est l'énergie d'une ampoule. Notre corps consomme une centaine de watts. Et bien sur les 100 watts, il y en a 20 qui sont consommés uniquement par le cerveau. Et ce qui était encore plus extraordinaire, c'est que chez le nouveau-né, disons l'enfant avant un an, c'est 60% de l'énergie qui est consommée par le cerveau, parce que le cerveau est en train de se fabriquer. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour l'intellect, et cette énergie, il est difficile de la trouver dans les arbres avec des fruits ou des feuilles. Et donc, qui dit bipédie, dit possibilité de trouver des aliments carnés, trouver des petits rongeurs, voire même des insectes, des charognes. Et dès qu'on trouve de la nourriture carnée, on a accès à un niveau d'énergie supérieur. Donc, c'était très important. En même temps, la bipédie a libéré les mains. Et donc, on peut faire beaucoup de choses avec ses mains, et utiliser des outils, trouver de meilleurs aliments. Et donc, ça a été aussi très important pour la suite. Alors, comment cela s'est-il passé? Il y a 6 millions d'années, là, il y a un schéma qu'on donne volontiers, mais qui n'est pas vrai. C'est l'idée que des singes se seraient... aventurés sur le sol et qu'il y aurait eu à ce moment-là une grande sécheresse et donc que les chimpanzés ou les ancêtres des chimpanzés et des hommes n'aient pas eu le choix, autre choix que de courir sur Terre. Alors c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça c'est assez simpliste. Il faut dire qu'il y a 6 millions d'années, il y a eu de grands changements climatiques. Et donc, l'environnement dans lequel vivaient ces ancêtres de chimpanzés et d'hommes, ces ancêtres vivaient dans les arbres et tous comme dans une forêt équatoriale, et tout cela était très stable pendant des millions d'années. Mais à cette époque-là, on commençait à se produire des changements climatiques et on s'est retrouvé avec une espèce de mosaïque de climat parce que tel plateau, par exemple, s'était desséché, avait perdu sa forêt, était devenu une savane. Inversement, telle vallée était restée humide et avait conservé sa forêt. Et ces changements, bien, se sont traduits par une mosaïque d'environnements. Et dans ces environnements, eh bien, les singes se sont adaptés plus ou moins différemment. Par exemple, certains sont partis vers la nourriture carnée, comme je le disais, d'autres sont restés dans la nourriture végétale, d'autres sont devenus plus robustes, comme on dit, c'est-à-dire capables de manger des végétaux plus coriaces, ça se voit dans les dentitions. Il y a eu donc de multiples adaptations, et cela a formé ce qu'on appelle un arbre généalogique buissonnant, c'est-à-dire avec beaucoup de caractéristiques différentes. Alors, on va reparler de cet arbre généalogique parce qu'il y a toujours une grande confusion quand on trouve des restes d'Australopithèques ou des restes humains. On a toujours énormément de mal à les situer dans l'histoire. Et si on a du mal, c'est parce que d'abord, nous ne disposons pas de beaucoup de fossiles. Et deuxièmement, il y a des variations très très confuses d'un fossile à l'autre parce qu'il y avait cette mosaïque de climat qui s'est traduite par une mosaïque d'espèces, en fait.
Alors, on peut juste rappeler j'aime bien les étymologies. L'étymologie de Australopithèque, hein, ça vient de Austral, rien à voir avec l'Australie, mais ça veut dire, ça a été trouvé en l'occurrence en Afrique du Sud. Et puis Pithecus, qui veut dire en fait le singe, hein, donc c'est le singe d'Afrique du Sud.
Alors effectivement, c'est un singe. Hein. Si vous voyez dans un zoo un Australopithèque, ça ne sera pas le cas parce qu'il n'existe plus aucun être vivant de ce type-là. Ils ont tous disparu à peu près il y a 1 ou 2 millions d'années. Si vous voyiez un Australopithèque dans un zoo, vous le prendriez pour un singe. Tout au plus remarqueriez-vous qu'il marche un peu mieux. Les chimpanzés marchent en dodelinant. On voit bien qu'ils n'ont pas les jambes faites pour marcher. Ils sont beaucoup plus faits pour grimper aux arbres. Mais ils marchent en dodelinant. Et bien là, vous pourriez remarquer que cet Australopithèque, si vous le voyez, ressemble à un singe, mais marche un peu mieux que lui. Voilà, voilà ce qu'est un Australopithèque. Alors, ce qui se produit il y a 6 millions d'années, séparation homme-singe, c'est que vous avez un ancêtre commun qui se sépare en chimpanzé d'un côté et bipèdes de l'autre. Les bipèdes, je vous le disais, on les appelle les hominines, et les hominines, c'est essentiellement les Australopithèques, puis Homo. Voilà, voilà ce qui se produit il y a 6 millions d'années. Alors, la bipédie est très importante parce que, je vous le disais, l'animal bipède peut courir après des proies et s'alimenter avec de la chair. Et ça, ça change énormément parce que ça change le métabolisme. Eh bien, à cette époque-là, on voit se dessiner dans parmi les Australopithèques ceux dont j'ai déjà parlé, qu'on appelle robustes, qui, eux, restent végétariens et deviennent capables, dans un climat qui change, de varier plus leur nourriture, et en particulier en mangeant des feuilles qui sont plus coriaces, d'où une dentition plus forte. Et puis vous avez d'autres Australopithèques, parmi ils sont, hein, il y avait des dizaines, voire des centaines d'espèces différentes. On en voit d'autres qui deviennent graciles. Graciles, ça veut dire qu'ils commencent à devenir plus habiles, plus adroits, et eux s'orientent progressivement vers la nourriture carnée. Alors, que se passe-t-il avec la bipédie ? Mais d'abord, je voudrais lever un doute sur un point. Nous avons tendance à penser que l'homme est supérieur à tous les animaux par son intelligence, ça c'est sûr, mais aussi qu'il est inférieur par ses capacités physiques. Nous avons un complexe physique vis-à-vis des animaux, parce qu'un guépard court plus de 100 km/h, on voit les fourmis capables de soulever des charges qui font 10 fois leur poids. Donc nous avons l'impression d'être un peu des minus sur le plan des qualités physiques. Eh bien c'est faux. C'est faux parce que l'homme bipède est l'une des espèces les plus endurantes qui soit. On les compte sur les doigts d'une main. Nous sommes pratiquement sur le podium des Jeux Olympiques en termes d'endurance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme peut courir... Vous voyez, un marathonien, par exemple, peut courir 50 km. Eh bien, déjà, à l'époque d'Homo erectus, peut-être l'Australopithèque, mais d'Homo erectus, certainement, on était là avec des espèces qui pouvaient courir 50 km. Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'espèces animales qui peuvent courir 100 km. En particulier le guépard, il est excellent sur le plan de l'impulsion, il est capable d'atteindre très vite 100 km/h. Mais par contre, il n'est pas fait pour l'endurance. Alors, qui dit endurance, dit capacité de chasse. Vous savez dans la chasse à cours, on épuise un cerf, et lorsqu'on a couru derrière lui pendant très longtemps, le cerf meurt de fatigue. Donc, la même chose se produisait, les hommes pouvaient courir, ou les Australopithèques pouvaient courir longtemps. Ça permettait aussi d'accéder aux carcasses. Lorsqu'il y a un animal mort, il y a une espèce de course à celui qui est le premier sur place. Alors les premiers, ce sont les buses, les oiseaux. Ensuite arrivent les lions. Bien là, les humains ou les bipèdes étaient capables de courir très vite en repérant dans le ciel où se trouvaient les buses et donc en repérant où se trouvaient les carcasses, et ils étaient parmi les premiers à arriver.
Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et je donne rendez-vous à nos auditeurs également la semaine prochaine.